Nous savons depuis longtemps que les objets de notre expérience sensorielle palpable peuvent être influencés par nos choix, aussi bien conscients qu'inconscients. C'est un fait avéré qui n'implique nullement que nous soyons forcés de croire à la présence en nous d'une force capable de se projeter à l'extérieur pour atteindre l'univers. Je veux parler d'une relation pragmatique entre la croyance et ce que nous identifions sous le nom de réel. Tous nos jugements sont infléchis par le poids très lourd d'un ensemble de croyances ancestrales auxquelles nous sommes, en tant que membres du Bene Gesserit, encore plus sensibles que d'autres. Il ne suffit pas pour nous d'en avoir conscience et de vouloir nous en protéger. Les interprétations de rechange devront toujours faire l'objet de notre attention. Mère supérieure Taratsa, débat au sein du Conseil.
Dieu nous jugera ici même, exulta Vaf.
Ils n'avaient pas cessé de se conduire ainsi aux moments les plus inattendus pendant toute leur longue course à travers le désert. Shiana ne semblait pas trop y prêter attention, mais la voix et les commentaires du Tleilaxu commençaient à exaspérer Odrad. Le soleil de Rakis avait largement entamé sa courbe descendante en direction de l'ouest. Cependant, le vert qui les portait semblait infatigable dans sa traversée de l'ancien Sarir vers les monticules représentant à l'horizon les vestiges de la muraille du tyran. « Pourquoi cette direction ?» se demandait Odrad. Aucune réponse n'était satisfaisante. Néanmoins, le fanatisme de Vaf et le danger qu'il présentait à nouveau appelaient une réaction immédiate. Elle eut recours au jargon du charia qu'elle savait efficace sur lui. « C'est à Dieu de juger et non aux hommes. » Vaf tiqua devant le sarcasme qui perçait dans sa voix. Il scruta l'horizon devant eux, puis leva la tête vers les ornis qui suivaient leur avance.
« Il faut bien que les hommes accomplissent le travail de Dieu, » murmura-t-il.
Odrad ne répondit pas. Vaf avait été conduit une fois de plus à douter du Bene Gesserit. Il devait se demander, est-ce que ces sorcières partagent vraiment notre grande croyance? Les pensées de la révérende mère la plongèrent de nouveau dans une foule de questions sans réponse, où tout ce qu'elle savait sur les vers géants de Rakis, soit d'après ses souvenirs personnels, soit d'après ce qu'elle puisait dans sa mémoire seconde, se mêlait dans sa tête en un montage insensé. Elle eut une vision dans laquelle des Fremen, avec leurs grandes robes, chevauchaient un ver encore plus gros que celui-ci. Chaque cavalier se tenait, penché vers l'arrière, à une longue perche munie d'un croc qui s'enfonçait dans un anneau du ver exactement de la même manière que ses mains s'y agrippaient en ce moment. Elle sentait le vent sur ses joues, la cape qui battait contre ses jambes. Cette chevauchée, avec beaucoup d'autres, lui laissait une impression de familiarité de longue date. Il y a longtemps qu'un Atréide n'a pas monté un ver de cette manière. La clé de leur destination se trouvait-elle derrière eux, à Dar es Balat? Comment était-ce pensable? Mais la journée avait été si chaude, et elle avait eu l'esprit tellement obnubilé par la perspective de cette expérience mystique dans le désert, que ses idées n'étaient peut-être pas demeurées aussi claires qu'elles auraient dû l'être. Dar es Balat avait ceci de commun avec les autres communautés de Rakis, qu'elle se renfermait sur son centre durant les heures de grande chaleur du début de l'après-midi. Odrad se souvenait de l'échauffement pénible de son disti tout neuf, tandis qu'elle attendait dans l'ombre d'une bâtisse à la sortie ouest de la ville, où des escortes séparées devaient lui amener Vaf et Shiana, qu'elle avait installées dans des résidences bien gardées. Quelle cible facile elle offrait alors! Mais il fallait que les sœurs soient certaines de la coopération des Rakiens. Les escortes Bene Gesserit avaient délibérément prolongé l'attente.
Shaitan aime la chaleur, avait fait remarquer Shiana.
Les Rakiens se cachaient pendant les heures chaudes, alors que les vers sortaient. Fallait-il voir là un fait significatif, susceptible de révéler la raison pour laquelle ce ver les conduisait dans une direction déterminée? Mes idées rebondissent dans toutes les directions, comme une balle d'enfant. Quelle importance cela pouvait-il avoir que les Rakiens se cachent du soleil, pendant qu'un gnome Tleilaxu, une révérende mère, et une petite sauvageonne cavalcadait à travers le désert sur le dos d'un ver. C'était un type de comportement fort ancien sur Rakis. Rien de surprenant là-dedans.
La seule différence était que les anciens Fremen avaient des habitudes essentiellement nocturnes, alors que leurs descendants modernes comptaient davantage sur l'ombre pour les protéger du soleil torride.
Comme les prêtres en comparaison devaient se sentir en sécurité derrière leurs canates protecteurs.
Chaque habitant d'un centre urbain de Rakis savait à chaque instant que le canat était là et que ses eaux lisses coulaient dans l'ombre, alimentant de leurs étroits filets le réseau de rigoles dont l'évaporation était ensuite récupérée dans les pièges à vent.
« Nos prières nous protègent », avait-il coutume de dire.
Mais il savait très bien ce qui les protégeait en réalité.
Sa présence sanctifie le désert. Le ver sacré, le dieu fractionné.
Odrad baissa les yeux vers l'anneau qu'elle agrippait.
Et c'est lui qui nous porte.
Elle songea aux prêtres qui les observaient à bord des ornies au-dessus de leur tête. Comme ils aimaient espionner leurs semblables. À Dares Balat, pendant qu'elle attendait l'arrivée de Vaf et de Shiana, elle n'avait pas cessé de sentir leur regard dans son dos. Des yeux l'avaient épiée à travers les hautes grilles des balcons, par les fentes des murs épais, derrière de faux miroirs de place ou simplement dans l'ombre d'un endroit abrité. Elle avait dû faire de gros efforts pour ignorer les dangers tandis qu'elle mesurait le passage du temps au mouvement de l'ombre d'un mur voisin. C'était ce qu'il y avait de mieux comme montre dans ce coin perdu, où l'on utilisait rarement autre chose que le temps solaire. Les tensions s'étaient accumulées, amplifié par la nécessité de garder une apparence sereine. Allait-il l'attaquer? Oserait-il seulement, sachant qu'elle avait pris ses propres précautions? À quel point les prêtres étaient-ils furieux d'avoir été forcés de s'allier au Tleilaxu dans cette troïka secrète? Les conseillères Bene Gesserit de la citadelle n'avaient pas trop approuvé cette dangereuse manière d'appâter les prêtres. Il vaudrait mieux que ce soit l'une de nous qui joue le rôle d'appât.
Odrad avait été catégorique. Ils ne s'y laisseraient jamais prendre. Leurs soupçons les empêcheraient d'agir. De plus, il y a toutes les chances pour qu'ils envoient Albertus.
Odrad avait donc attendu sur cette place de Dares Balat, dans l'ombre de verdure où elle pouvait voir 6 étages plus haut en levant la tête, le rectangle éblouissant du ciel qui dominait les balcons ornés de rampes en arabesque, de plantes vertes et de fleurs éclatantes, oranges, écarlates ou bleues. Sans compter les regards cachés. Il venait d'y avoir un mouvement dans l'embrasure de la grande porte d'entrée située sur sa droite. Une silhouette vêtue de pourpre, de blanc et d'or sacerdotaux s'insinua sur la place. Odrad l'étudia prudemment, à la recherche d'un signe indiquant que les Tleilaxu avaient osé étendre leur influence en mettant en place un nouveau danseur visage. Mais il s'agissait bien d'un homme, d'un prêtre qu'elle reconnaissait.
Albertus. Le doyen de Dares Balat.
Exactement comme nous l'avions prévu. Albertus traversa l'atrium et l'espace qui les séparait avec une dignité solennelle. Y avait-il dans sa démarche quelque indice de traîtrise? Allait-il faire signe à des sbires postés dans l'ombre? Elle jeta un coup d'œil au balcon en gradin. Il y avait quelques mouvements fugitifs dans les étages supérieurs. Le prêtre qui s'avançait vers elle n'était pas seul.
Mais moi non plus.
Albertus s'arrêta à 2 pas d'Odrad et releva les yeux pour la regarder, de l'endroit où son attention était restée obstinément fixée. Les motifs complexes et entrelacés des dalles pourpre et or dont la place était revêtue.
Il a les os faibles, se dit Odrad.
Rien dans son expression ne laissait voir qu'elle le reconnaissait. Albertus faisait partie du groupe qui savait que le grand prêtre avait été remplacé par un danseur visage. Il se racla la gorge et prit une inspiration tremblante. Pas seulement les os, mais toute la carcasse. Tandis qu'Odrad s'amusait à cette pensée, sa vigilance n'était pas diminuée pour autant. Les révérendes mères faisaient toujours automatiquement ce genre de remarques. Il fallait repérer les caractères génétiques. Le peu de sélectivité qui existait dans sa lignée ancestrale était entaché d'imperfections, des choses élémentaires que les sœurs corrigeraient chez ses descendants s'il valait un jour la peine de cultiver cette lignée. C'était à considérer, bien sûr, car Albertus avait gravi lentement mais sûrement les échelons du pouvoir, et il faudrait déterminer si cela impliquait l'existence d'un matériel génétique de quelque valeur. Albertus n'avait cependant reçu qu'une médiocre formation. La plus novice des acolytes aurait pu avoir raison de lui. Le conditionnement des prêtres de Rakis avait bien régressé depuis l'époque des truitesses.
« Pourquoi êtes-vous ici ? »
demanda-t-elle d'une voix aussi accusatrice que curieuse. Albertos répondit en tremblant.
« J'apporte un message de votre groupe, mère supérieure. »«
Alors donnez-le. »
« Il y a un léger contretemps à cause de l'itinéraire pour venir ici, que trop de gens connaissent. »
C'était bien l'histoire qu'il avait été convenu de raconter au prêtre. Mais elle lisait sans peine autre chose sur le visage d'Albertus. Les secrets qu'on lui confiait étaient dangereusement accessibles à tout le monde, ou presque.
« Je regrette presque de ne pas vous avoir fait mettre à mort, » dit-elle.
Albertus recula de deux pas. Son regard était devenu vitreux, comme s'il venait de trépasser à l'instant même devant elle. Elle identifia sa réaction. Albertus était entré dans cette phase hautement révélatrice où la peur lui agrippait le scrotum. Il savait que la terrible révérende mère Audrade qu'il avait devant lui était capable de le condamner à mort sur un simple caprice, voire d'exécuter la sentence de ses propres mains. Rien de ce qu'il allait dire ou faire en sa présence n'échapperait à son attention sans pitié.
« Vous avez envisagé de me tuer et de détruire notre citadelle de Kin, »
accusa-t-elle. Albertus se mit à trembler violemment.
« Pourquoi dites-vous des choses pareilles, révérende mère ? »
fit-il. Mais l'arrière-ton géniard contenu dans sa voix était suffisamment révélateur.
« N'essayez pas de nier, » poursuivit Audrade. « Je me demande si beaucoup de gens vous trouvent aussi facile à lire que moi. Vous êtes censé cacher vos secrets et non vous promener partout en les affichant sur votre front. »
Albertus se laissa tomber à genoux. Elle crut qu'il allait se mettre à plat ventre.
« Mais ce sont les vôtres qui m'envoient. »
« Et vous avez sauté sur l'occasion de venir vérifier en personne s'il était possible de vous débarrasser de moi. »«
Pourquoi aurions-nous de tels ? » ?»«
Taisez-vous. Vous n'aimez pas l'influence que nous avons sur Shyana. Vous redoutez les Kaylaxu. Trop de responsabilités ont été ravies à vos mains sacerdotales, et certaines choses ont été mises en mouvement qui vous font horriblement peur.
Révérende mère, que faut-il que nous fassions?
Vous devez nous obéir. Et plus encore, vous devez obéir à Shyana. Ce que nous allons risquer aujourd'hui vous épouvante? Ce n'est rien à côté de ce que nous pourrions vous faire.
Elle secoua la tête en feignant le désespoir, sachant l'effet que tout cela avait sur le malheureux Albertus. Il se faisait tout petit sous le terrible poids de son courroux.
« Debout !» ordonna-t-elle. « Et n'oubliez pas que vous êtes un prêtre et que vous devez dire la vérité. »
Albertus se remit maladroitement sur ses pieds en gardant la tête baissée. Elle vit tout son corps réagir à sa décision d'abandonner tout subterfuge. Quelle épreuve pour lui. Loyal envers la révérende mère qui lisait si facilement les pensées qu'il avait dans son cœur, il lui fallait être également loyal envers sa religion. Il devait affronter l'ultime paradoxe de toutes les religions. Dieu sait tout, Dieu voit tout.
« Vous ne pouvez rien me dissimuler, ni à Shyana, ni à Dieu, » dit-elle.
« Pardonnez-moi, révérende mère. »«
Vous pardonnez ? Il n'est pas en mon pouvoir de vous pardonner, et vous ne devriez pas me le demander. Vous êtes un prêtre. »
Il releva les yeux vers le visage courroucé d'Audrade. Il était maintenant totalement imprégné du paradoxe. Dieu était certainement présent, mais Dieu demeurait généralement lointain, et les confrontations pouvaient être remises à plus tard. Demain serait un jour nouveau, cela ne faisait aucun doute. Et c'était acceptable si l'on se permettait quelques petits péchés, peut-être un mensonge ou deux, provisoirement seulement, ou même un gros péché si les tentations étaient trop fortes. Les dieux étaient censés faire preuve de plus de mansuétude à l'égard des grands pécheurs. Il serait toujours temps de se repentir après. Audrade considéra Albertus à travers la vision analytique de la Missionaria Protectiva. « Ah, songea-t-elle, mon pauvre Albertus, c'est vrai, mais tu es maintenant en présence d'un simple être humain qui connaît tous les secrets que tu croyais être le seul à partager avec ton dieu. » Pour Albertus, la situation dans laquelle il se trouvait en ce moment offrait bien peu de différence avec la mort et la soumission ultime au jugement d'un dieu omnipotent. Cela ressemblait à coup sûr à la manière dont il était en train d'abdiquer inconsciemment devant elle cette dernière miette de volonté. Ses pires terreurs religieuses avaient été invoquées pour être concentrées sur la personne d'une révérende mère. De sa voix la plus sèche, sans même avoir recours au pouvoir contraignant de la voix, Odrad déclara
« J'exige que cette farce prenne fin immédiatement !»
Albertus s'efforça vainement de déglutir. Il savait qu'il ne pouvait pas mentir. Il avait peut-être en tête une lointaine possibilité de mensonge, mais il était absolument incapable de la concrétiser. D'un air soumis, il releva les yeux vers le front d'Odrad, à l'endroit où le capuchon du disti était étroitement plaqué contre sa peau. Il parla d'une voix à peine audible.
« Révérende mère, c'est seulement parce que nous nous sentons frustrés. Le Tleilaxu et vous accompagnez notre Chiana dans le désert. Avec elle, vous apprendrez beaucoup, tandis que nous... »
Ses épaules s'affaissèrent.
« Pourquoi emmenez-vous le Tleilaxu ?»«
C'est Chiana qui l'a demandé, »
mentit Odrad. Albertus ouvrit la bouche, mais la referma sans avoir rien dit. Odrad vit l'acceptation monter en lui.
« Vous transmettrez mon avertissement aux autres, » dit-elle. « La survie de Rakis et de votre clergé dépend étroitement de la manière dont je serai obéi. Vous ne devez nous contrarier sur aucun point. Quant à ces complots puérils que vous fomentez contre nous, Chiana nous tient au courant de toutes vos mauvaises pensées. »
Albertus fit alors une chose qui l'étonna. Il secoua la tête en émettant une sorte de rire sec et caquetant. Elle avait déjà remarqué que de nombreux prêtres semblaient apprécier la déconfiture chez les autres, mais elle ne soupçonnait pas que cet amusement puisse s'étendre à leur propre fiasco.
« Je trouve que vous avez le rire creux, » dit-elle.
Albertus haussa les épaules et une partie de son masque se remit en place. Elle en avait déjà vu plusieurs sur son visage. Toutes ses façades. Il portait ses masques par couches superposées. Et tout en dessous, derrière ses défenses les plus profondes, il y avait celui qui se sentait concerné, celui qu'elle avait mis à nu l'espace d'un instant. Ces prêtres avaient cependant une dangereuse propension à se lancer dans de volubiles explications quand on les pressait de trop de questions. « Il faut que je fasse venir à la surface celui qui se sent concerné », se dit Odrad. Elle lui coupa la parole au moment même où il ouvrait la bouche.
« Je ne veux plus rien entendre. Vous vous présenterez à moi à mon retour du désert. En attendant, vous êtes mon messager personnel. Transmettez exactement mon message et vous serez récompensé d'une manière à laquelle vous n'avez jamais pensé, même en rêve. » « Trahissez-moi et vous connaîtrez des souffrances dignes de Shaitan. »
Elle avait suivi des yeux Albertus qui s'éloignait de la place en trottinant, les épaules rentrées, le menton pointé en avant, comme s'il n'aspirait qu'à mettre ses lèvres le plus tôt possible à portée d'oreille de ses pères cléricaux. Dans l'ensemble, se disait-elle, tout s'était bien passé. Au prix d'un risque calculé sous la forme d'un grand danger pour elle. Elle était sûre que les balcons au-dessus de la place étaient truffés d'assassins qui n'attendaient qu'un signal de la part d'Albertus. Et à présent, les terreurs qu'il rapportait avec lui étaient typiques de ce que le Bene Gesserit connaissait intimement à travers des millénaires et des millénaires de manipulation. Un virus aussi contagieux que celui de n'importe quelle peste. Dans l'enseignement des sœurs, le phénomène était désigné sous le nom d'hystérie dirigée. L'arme était, cette fois-ci, dirigée, et l'on pouvait même dire braquée, sur le cœur du clergé rakien. On pouvait se fier à elle, particulièrement quand elle serait renforcée par les événements qui se préparaient. Les prêtres se soumettraient. Il n'y aurait plus à redouter qu'une poignée d'hérétiques réfractaires.